Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean?
Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien gueule.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver une fois de plus dans l'oreille du temps à bord de ma DeLorean pour vous emmener avec moi dans ce nouveau voyage temporel. Une expédition qui va nous permettre de remonter dans les différentes années de carrière d'un ou d'une artiste musicale pour parler de ses anecdotes de parcours ou encore de ses moments clés. Au programme, bonne humeur, musique, rire et anecdotes. Prêt à partir en voyage avec moi? Alors attachez vos ceintures, le départ est imminent. Une fois n'est pas coutume, nous sommes aujourd'hui encore forcés de réaliser ce voyage temporel à distance. Notre invité du jour a donc eu l'occasion de prendre part à ce voyage directement depuis chez lui. Mais d'où vient-il? Qui est-il? Réponse tout de suite. Aujourd'hui, nous partons rejoindre la ville de Laval dans la Mayenne pour rencontrer Nicolas Boinard, fondateur et chanteur du groupe de pop-rock Archimède. Emmené par les deux frères Frédéric et Nicolas Boinard, le combo a su se faire remarquer très rapidement. Et pour preuve, le premier album studio, éponyme du groupe, suffira à les faire nommer aux victoires de la musique de 2010, dans la catégorie Album Révélation de l'année. Suite à cela, pas question de se reposer sur ses lauriers. Les deux frangins sortiront trois autres albums studio, un album live, et réaliseront de très nombreux concerts un peu partout en France et à l'étranger. Ajoutez à cela de nombreuses interviews, des émissions TV, des premières parties d'exception et vous aurez le résumé d'une carrière déjà bien remplie. Leur recette du succès ? Une plume et une langue française maîtrisées du bout des doigts, parsemées de mélodies pop-rock entêtantes et envoûtantes. Forcément, le public se montre rapidement au rendez-vous également et ne cessera de croître au fur et à mesure des années. En plus de leur propre musique, les frères Boinard auront également eu l'occasion d'écrire et de composer pour d'autres artistes reconnus, voire carrément célèbres, comme Epsilon ou Johnny Hallyday. Eh oui, rien que ça. Bref, c'est bien beau de parler, mais quand est-ce qu'on découvre tout ça? Ben, tout de suite. Allez, envolons-nous pour un petit tour d'horizon de leur discographie.
Choix.
Bon, vous êtes prêts? Vous avez hâte de le rencontrer? Ça tombe bien parce que nous aussi, notre artiste nous attend. C'est parti!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Alors, bah, salut Nico, merci d'avoir accepté l'invitation, j'espère que tu vas bien.
Avec plaisir, tout roule. Enfin, donc, tout roule, oui. Tout roule selon les circonstances, quoi.
On est d'accord.
Ouais, ça va à peu près, je veux dire.
Donc, bah, écoute, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler un petit peu des différentes années du groupe et des anecdotes que tu as, vécues ces dernières années. Donc, pour ça, j'ai une machine à côté de moi qui va nous permettre de voyager un peu dans le temps, aléatoirement, et donc de nous permettre de discuter un petit peu des différentes années d'Archimède. Donc, la première chose que je vais te demander avant de commencer cet entretien, c'est de te laisser choisir une année qui t'a marqué ou dont tu as envie de me parler dans les années du groupe.
Je pense qu'une année qui a été forte pour le groupe, forte en termes d'émotion, d'intensité, de travail, d'émissions de télé, de radio, tout ça, c'était 2012. 2012, c'est une année où effectivement on a fait, je crois, le Bercy de Hubert Félix Thiéfaine. On tournait avec Benabar, avec Thiéfaine, on a fait plein de Zénith. Après, on a joué avec Johnny Hallyday. C'est cette année-là aussi qu'on a composé et écrit une chanson pour Johnny Hallyday avec Miossec. C'est cette année-là que notre album Trafalgar, qui était paru à la fin de 2011, a plutôt bien marché aussi. Il nous a valu de passer dans pas mal d'émissions de télé, de radio, elle-même ayant déclenché des tas de dates. On a dû faire 160 concerts en un an de mémoire, donc c'était une grosse année 2012, ouais, pour Archimède.
C'est venu comment justement de faire ces premières parties? Comment est-ce que vous avez été amené à faire les premières parties d'artistes comme Benabar, comme Thiéfaine?
Alors de mémoire, c'est assez amusant parce que Nagui nous aimait bien, nous a invité plusieurs fois à faire Taratata et il fallait faire des duos. Dans les taratata auxquels on était conviés, tu vois un peu l'émission. On venait faire notre chanson et puis il fallait aussi proposer un duo. Et pour les duos, il se trouve qu'on en a fait un, notamment avec Hubert Félix Thiéfaine et un autre avec Benabar. Et à partir de là, bah, on a copiné parce que c'est des garçons qui sont plutôt cool à voir en concert et même très bons en concert, en live, et qui en plus sont de bons camarades à la ville. Benabar étant venu nous voir encore récemment, il y a un an, à la maroquinerie, il est venu dans la salle en octobre dernier, 2019. Et puis, moi, j'étais en février 2020 en Écosse. J'ai envoyé un petit texto à Hubert Félix Thiéfaine parce qu'il y avait un pochoir de sa ganache, en fait, sur un mur d'Édimbourg. Et il m'a gentiment répondu. On a parlé whisky. Enfin, vraiment, vraiment, c'est des garçons charmants. Donc, on les a rencontrés, Benabar et Thiéfaine, sur les plateaux de Taratata. Et puis après, bah, on a gardé un lien. Je crois qu'ils ont bien aimé ce qu'on faisait, Fred et moi. Ils nous ont conviés à ouvrir pour eux dans leur zénith, respectivement. Voilà.
D'accord, trop bien.
C'était sympathique, ouais.
Bah oui, j'imagine. Et du coup, cette écriture conjointe avec Miossec pour Johnny Hallyday, c'est pareil, c'est venu comment, ça?
Alors ça, à la base, c'est plus un truc de maison de disques. C'était notre directeur artistique, en fait, chez Sony, qui, en fait, avait été démarché par le directeur artistique de Johnny Hallyday, lequel démarche un petit peu toute la place de Paris, enfin, différents directeurs artistiques dans les maisons de disques, quand il devait sortir un disque. Le DA de Johnny démarchait, sollicitait d'autres DA sur la place de Paris pour demander à leurs artistes de phosphorer, de réfléchir à d'éventuelles chansons pour Johnny. Donc il a appelé Vincent Blaviel, qui était à l'époque notre DA chez Sony, mais pas pour nous, en fait. Il n'était même pas question de nous, de mémoire. Il demandait à Icar ou Benoît Power de Kyo d'essayer d'écrire des chansons, je cite de mémoire. Et en fait, Vincent a dit, mais j'ai un bon groupe aussi qui fait de la pop, qui a fait les premières parties de Thiéfaine, machin, il s'appelle Archimède, est-ce qu'ils peuvent tenter? Et donc, il nous a proposé, Vincent, mais vraiment en mode bouteille à la mer, à mon frère et moi, de faire une chanson ou deux pour Johnny Hallyday. On s'est immédiatement exécuté avec Fred, on en a envoyé deux. Vincent en a gardé une, c'est celle-là qui s'appelle À l'abri du monde, qu'il a faite passer à l'entourage de Johnny, à Bertrand Lamblot, son DA, et puis de fil en aiguille, il se trouve que cette chanson a été sélectionnée, enfin, a été gardé, voilà, sur le l'antépénultième album de Johnny Hallyday. Il s'appelait L'Attente, donc c'était plutôt sympathique aussi. Donc grosse année 2012.
Bah oui, tu m'étonnes, parce que j'ai noté aussi que c'était votre deuxième participation aux Victoires de la Musique aussi.
Ouais, exactement, ouais. Je crois pas qu'on avait chanté ce soir-là, mais on était nommé dans la catégorie album rock avec Trafalgar, qui, c'est vrai, avec du recul, on peut le dire, est notre album, a priori, le plus rock. Il y avait des titres comme Est-ce que c'est juste, Bye Bye Bayer, Les Petites Mains, L'Intrus, On aura tout essayé. Il y avait des titres assez rock'n'roll sur cet album, et donc on était nommé dans la catégorie meilleur album rock de l'année.
Ok. Juste avant de lancer la machine et puis de passer à la lecture aléatoire des dates, donc là, ouais, j'ai une première année qui est tombée, mais je voulais juste avoir ta confirmation. Est-ce que c'est bien en 2004 que le groupe s'est créé?
Alors, c'était pas Archimède en 2004, en fait. On a eu différents petits projets avant. Et en 2004, c'est vrai, c'est là où remontent vraiment les toutes premières chansons, la création des toutes premières chansons, et même de chansons qui figurent pas dans nos albums parce que c'était les premières et que par définition, elles n'étaient pas suffisamment abouties. Mais il y avait des chansons qui s'appelaient Les Gentianes, Femme Fabule, Archimède. C'était une chanson à la base, Archimède. Et ces premières chansons, effectivement, on a dû commencer à les écrire en 2004-2005. Mais la vraie discographie d'Archimède commence en 2009. Avant, c'est du sous-main, quoi. On travaille sous le boisseau.
D'accord. Et ben, du coup, je te propose de partir donc à l'année 2009 pour les débuts d'Archimède et la sortie du premier album, donc éponyme.
« 2009 », bah évidemment, grosse année, un premier album, donc c'est toujours marquant, la sortie d'un premier album. Je me rappelle que c'est aussi l'année de la mort de Michael Jackson. On sort notre album en juin, et je crois que c'est un mois avant ou un mois après que Michael Jackson, qu'on adorait et qu'on a évidemment beaucoup écouté comme tout le monde, est décédé. Je me rappelle qu'on devait avoir un gros papier de mémoire dans Le Parisien, et que la mort de Michael Jackson a fait qu'il a monopolisé toutes les colonnes du Parisien, et que notre article est passé à la trappe et qu'il n'est jamais passé après dedans, donc pas de bol. Mais je me souviens aussi qu'en 2009, on a eu une double page dans Libé, dans Libération. Ça, c'était vraiment très honorifique. Un journaliste et écrivain d'ailleurs qui publie chez Grasset, qui s'appelle Bruno Bayon, qui nous avait réservé une magnifique surprise en écrivant un article sur deux pages avec une énorme photo. Et moi qui étais lecteur de Libé dans mes années d'études de philo à Rennes quelques années auparavant, j'étais évidemment très ému de voir ma tronche et celle de mon frère dans les colonnes de Libération en ouverture de leur page culture.
Voilà. D'accord.
Je me souviens notamment de ça en 2009, et puis du clip de L'été revient, du tournage, d'un journaliste aussi qui s'appelait Gilles Verland, et qui était le biographe officiel de Gainsbourg, qui a écrit aussi Les Miscellanées des Beatles. C'était vraiment un grand journaliste dans la musique. Et je me souviens aussi de lui parce que dès notre premier album en 2009-2010, il a été très attaché à notre univers, à notre façon de trousser les chansons. Donc voilà, j'ai un souvenir ému aussi de Gilles Verland.
D'accord. Et est-ce que tu te souviens de votre premier concert avec Archimède ?
Eh bien justement, le tout premier concert, je crois que c'est vraiment fin 2004. C'était à Laval, dans une salle qui s'appelle aujourd'hui le 6x4, mais à l'époque c'était la Coulée Douce de mémoire, ou la Petite Cabane même, parce qu'il y a eu plusieurs noms. Et c'était notre premier concert, c'est ça. Enfin, le premier concert qu'on donne, Fred et moi, avec des musiciens sur scène, ça doit être le 28 décembre 2004, quelque chose comme ça. Voilà. Mais on est loin de la de 2009. Hein. C'est là, on a l'impression qu'on est arrivé de nulle part en 2009 avec L'été revient qui passait sur les radios et tout. Mais en fait, il y a toujours beaucoup de travail en amont et de travail de préparation. Une signature en maison de disque en 2008, en 2006 une signature avec un éditeur, et finalement, oui, c'est en 2005 que beaucoup de choses se nouent.
Très bien. Bah écoute, je te propose de passer à la suite. Et la deuxième date qui tombe...
Ouais, 2017, c'est une année... une chouette année aussi. J'ai un souvenir assez curieux en 2017. En fait, ça doit être le 4 mai 2017 de mémoire. On doit jouer au Café de la Danse. Et en fait, j'ai une angine de voix, mais un truc de malade. Notre album est sorti le 7 avril 2017, et donc un mois après, on doit faire cette date parisienne. Donc les dates parisiennes, c'est des dates importantes. Mmh. 4 mai 2017, donc on doit jouer. C'est pareil, il y a des journalistes qui sont là le soir. On joue à guichet fermé, il y a 450 places qui ont dû être vendues, donc c'est cool, on est tous contents, sauf que j'ai une putain de... de laryngite, mais vraiment horrible, quoi. Je peux pas chanter, c'est absolument impossible de chanter. Et donc, la veille, on jouait à Nantes. J'ai réussi à finir le concert in extremis, mais le lendemain, j'ai carrément plus de voix. Et je décide, un peu de mon propre chef, de me shooter au Soluprède, parce que je veux absolument faire cette date. Ce qui est stupide, il n'y a aucun chanteur de faire ça, c'est idiot, mais je l'ai fait. J'ai pu chanter, et c'est un des concerts les plus marquants de ma vie, parce que forcément, j'ai dû prendre genre 7 Soluprède, sachant que je fais 55 kilos. C'était une dose de cheval, mais vraiment une grosse dose de cheval, quoi, comme celle d'un cocaïnomane. Donc j'étais, effectivement, j'ai retrouvé ma voix, plus tout le gingembre que j'avais ingurgité, plus l'élixir de Bolshoï, un truc de chanteur et tout. Donc j'étais mais complètement explosé sur scène, mais c'était super cool, les gens chantaient à fond. Ça a été un putain de concert, c'était assez génial. J'étais dans une sorte d'état second, et je me souviens qu'en rentrant à l'hôtel, après avoir fait quelques bars à 2-3 heures du matin, c'était un hôtel avec piscine et je voulais aller nager à 4 heures du mat. Enfin voilà, j'étais vraiment sous guronzant, quoi. C'est vraiment un beau souvenir. C'est à ça que ça me fait penser 2017. Sortie de l'album Mehari, qu'on a enregistré aussi avec nos copains, avec Christophe Darlot et Hubert Harel à Besançon. Donc ça, c'est premier souvenir, mais l'album s'est enregistré en 2016. Et voilà, si je dois garder une date de 2017, c'est celle-là, le 4 mai, la date parisienne. Où d'ailleurs étaient nos chers réalisateurs de Mehari, Christophe Darlot et Hubert Harel. Ils étaient là ce soir-là dans la salle.
D'accord. Mehari, c'est le 4e album studio d'Archimède. Ouais. Quelle a été l'évolution, en gros? Comment est-ce que vous avez changé de manière de composer, de manière de faire? Est-ce qu'il y a eu une différence ou pas?
Sur Mehari, non. Finalement, on est vraiment resté dans le sillage de la manière de faire qu'on a depuis nos débuts. Il y a des chansons que je compose à la voix, des chansons que mon frère compose clé en main, et qu'il m'envoie avec une mélodie, et moi je travaille autour de son yaourt, puisqu'il chante une espèce d'anglais pré-mâché, mais avec une vraie clé mélodique, et donc moi j'essaie de transformer ça en français. Mm-hmm. Donc non, sur cet album, on est vraiment dans le sillage de ce qu'on fait précédemment, sauf que c'est un album qu'on a voulu un peu plus joyeux. Arcadie, comme son nom l'indique, alternait des chansons un peu allègre, allante, avec des chansons plus en creux, un peu plus chagrines, des chansons comme Le Grand Jour notamment, ou Oh Viens Ma Chérie aussi, qui est une chanson un peu spéciale. Et puis il y a d'autres chansons tristes sur Julia, c'est le premier single, était pas super festif non plus, c'est une chanson allante, Julia, mais c'est pas une chanson de fête ou de pur divertissement, il y a un peu de fond là-dedans. Et sur Mehari, on voulait revenir avec un album un peu décontracté, un peu décapoté, d'où l'idée d'ailleurs de Mehari, un album ensoleillé. Donc il y a beaucoup de chansons très, très joyeuses sur ce disque, en fait. D'accord. C'est pas notre disque le plus rock, c'est Trafalgar le plus rock. Je sais pas si c'est le mieux écrit, moi je suis très attaché à Trafalgar et Arcadie en termes d'écriture, mais dans Mehari, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un album... J'aime pas ce mot festif parce qu'il m'a jamais paru qu'on faisait de la musique festive, mais disons que on est dans le plaisir, quoi. On a pris du plaisir à le faire et à l'enregistrer, ce disque.
Je reviens sur un truc dont tu me parlais, que vous avez composé aussi des chansons pour d'autres personnes. Donc là, je prends l'exemple de Johnny Hallyday, mais j'ai aussi interviewé récemment Epsilon, et je sais que vous avez également collaboré sur certains titres avec Epsilon. Donc ma question est la suivante: quelle est la plus grosse différence entre composer pour soi et pour les autres?
Moi, j'ai du mal à composer pour les autres, parce qu'on nous a passé beaucoup de commandes, mine de rien, et je sais pas comment je me l'explique, mais quand c'est mon frère qui m'envoie des yaourts, j'ai plus de facilité à écrire un texte. Je sais pas pourquoi, c'est sans doute une question d'altérité fraternelle, de rapports différents. Mais... Alors pour Epsilon, c'est venu vite. Je me rappelle, j'ai écrit leur chanson, le début de leur chanson Epsilon, un matin au petit déjeuner chez mes beaux-parents. Je me revois en train d'écrire, d'avoir les mots qui viennent, et c'est assez curieux. Je sais pas comment me l'expliquer, mais pour Epsilon, je trouve qu'elle a bien marché, la chanson. Comment elle s'appelait? Il y a le mot histoire dedans.
Bah, la même histoire, je crois que c'est.
Voilà, c'est ça, la même histoire, exactement. Et j'avais pris du plaisir à l'écrire, et en fait c'est une époque aussi où j'avais beaucoup écouté Hubert Félix Stéphane, parce qu'on sortait de pas mal de dates qu'on avait faites pour Hubert, et mine de rien, Epsilon, dans leurs autres textes, j'avais noté leur attachement aussi à la forme kabbalistique, un peu ésotérique, qu'on retrouve dans l'écriture de Tiefen. Donc je m'étais amusé à écrire un petit peu dans ce style, un peu comme dans le couplet de « Je singe le monkey », les mêmes totems adoubés, les mêmes has-beens à bouder, opinions standardisées, métacommentaires balisés, enfin voilà, des mots un petit peu savants, des suites de vocabulaire un peu orgasmique. Je voyais bien où aller dans cette chanson, la même histoire, et donc j'ai pris du plaisir à l'écrire. Mais il y a plein de chansons qu'on a écrites, mon frère et moi, ou composées pour d'autres artistes et qui n'ont jamais été retenues. C'est très dur d'écrire finalement pour les autres. Mais bon, je dis ça, mais on a eu quand même la chance inouïe d'écrire pour Johnny Hallyday, ce qui est pas rien.
C'est clair, c'est clair. D'accord. Bah écoute, je te propose de continuer, de poursuivre un peu notre voyage.
Euh, 2015 direct, ça me fait penser à une tournée en Ukraine. Voilà, la plus belle tournée internationale de l'histoire d'Archimède, d'après moi. On a fait une tournée au Québec, on a fait une tournée en Amérique centrale, on a joué en Belgique, en Suisse, on a fait une fête de la musique à Moscou, mais alors en Ukraine, vraiment c'est le meilleur souvenir que j'ai. C'était fantastique. Un voyage très drôle, on voyageait dans des trains de nuit, des trains vraiment des années 30 ou 40 qui allaient très lentement, avec des voisins qui avaient des bouteilles de vodka et des choses même un peu plus illégales, et nos musiciens qui étaient à l'époque vraiment des mecs, je vais pas dire borderline, mais qui aimaient bien faire des nuits blanches et tout. Et j'ai un grand souvenir de l'Ukraine. Et en plus, en dehors de ce côté un peu festif dont je parle, et de ces voyages au long cours sur le réseau ferré de l'Ukraine, il y avait quelque chose de très touchant, c'est que c'est quand même un pays qui a vécu des conflits ukrainiens, pro-russes, tout ça, c'était assez compliqué, notamment à Odessa où on est allé jouer. Et on sentait que les gens étaient très heureux de voir des concerts et de voir des Français venir à leur rencontre. Donc il y avait un côté à la fois très touchant, et puis en même temps une aventure follement épique pour le groupe, qui est quand on a sillonné ce pays. On a joué à Kiev, Odessa et Rivne. Voilà, et c'était fabuleux.
D'accord. Est-ce que tu as une anecdote comme ça qui te vient à l'esprit, un truc vraiment important qui t'a marqué sur cette tournée-là? Je sais pas, un concert, un truc qui s'est passé avec des personnes qui sont venues nous voir?
Le concert à Kiev est très marquant parce qu'en fait, nos instruments ont été perdus en fait à l'aéroport. Ils sont restés à Charles de Gaulle de mémoire. Ils sont pas arrivés à Kiev, et donc on a joué sur des instruments qui étaient pas à nous, et une partie qui est arrivée in extremis. Le soir même, donc c'était très particulier, le concert à Kiev. Et puis le deuxième souvenir que j'ai, le soir juste avant ce concert, la veille plutôt, juste en arrivant, c'est qu'on a mangé dans un restaurant typique, c'était très drôle, et ils mangent des plaquettes de gras en fait en Ukraine. C'est-à-dire on coupe avec son couteau, comme on parle d'une plaquette de beurre. Il y a des plaquettes de gras et on beurre du gras, du pur gras. Il n'y a pas de rillettes autour ou de beurre, c'est vraiment du gras qu'on met sur une tartine, quoi. Donc moi qui suis rachot et pas spécialement fou de gras, ça m'a un peu heurté, mais je me suis livré à la coutume avec plaisir. Et puis la vodka, bien sûr. Enfin voilà, c'était un beau voyage, un bel épisode.
D'accord. Donc là, on parle un peu des tournées, des concerts, tout ça. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier quand tu pars en tournée?
Je dirais le plaisir d'être sur scène et de rencontrer le public sur scène et à la fin du concert. Et puis le plaisir des haltes le midi et des bonnes bouffes au catering, parce que ça cuisine bien aussi dans les salles en France. Donc voilà, le plaisir d'être sur scène et la bonne bouffe.
D'accord. Si on parle un peu des gens qui viennent vous voir et tout, quelle est la demande peut-être la plus improbable qu'un fan vous ait déjà demandé?
C'était de mémoire à Metz. Un couple avec qui on est resté amis d'ailleurs, ils s'appellent, leur sobriquet c'était Patate et Saucisse, et en fait ils nous ont, enfin c'est de mémoire Patate qui nous a écrit parce qu'il voulait prendre pour épouse Saucisse le soir de notre concert à Metz. Donc ça paraît complètement trivial de le dire comme ça, mais finalement c'était très touchant parce que derrière ces surnoms un peu grotesques, il y avait deux amoureux éperdus l'un de l'autre. Et c'est chouette, pendant le merch, à la fin, en fait, on avait convenu qu'il ferait sa déclaration. Il nous avait sollicité avant par écrit sur les réseaux sociaux. Il nous avait dit, voilà, il faudra écrire sur l'affiche ou le disque que je demande ma femme en mariage. Donc en fait, on était en quelque sorte les témoins de la demande en mariage de madame. Et dans la salle, le public était un peu de mèche, c'est-à-dire que tout le monde, à un moment, si je me souviens bien, s'est assis par terre, tout le monde a applaudi, et la fille ne comprenait pas, c'était un peu comme un happening géant dans la salle. Donc c'était rigolo, voilà, de demande très exotique pour nous.
D'accord, je trouve ça super cool, en fait, c'est super original. Je ne m'attendais pas du tout à une réponse comme ça.
Ouais, mais je crois
c'est
que
trop bien.
C'est marrant, alors, on ne peut pas toujours le faire, des fois il y a des gens qui nous demandent sur scène de dire des trucs et tout, mais sur scène c'est compliqué parce qu'on ne peut pas, au prétexte de vouloir faire plaisir à quelqu'un, on ne peut pas prendre le risque que tout le reste de la salle ne comprenne pas un peu le délire, donc sur scène on ne le fait pas. Mais quand on nous propose des trucs un peu marrants, un peu fun, après le concert ou avant... On s'exécute avec plaisir.
D'accord. Je te propose de passer à l'année 2019 pour parler un peu donc, du dernier album qui est sorti, donc, qui est un album anniversaire, Pop Decennium, qui est également en live et enregistré avec un orchestre, c'est ça ?
Ouais, exactement, avec un quatuor à cordes et une section cuivre. On était 12 musiciens. Il est enregistré en live, cet album, et il est paru en 2019, ouais. En fait, on a beau être avec un orchestre, on essayait d'avoir un son un peu moins rock pour laisser la place vraiment aux paroles. On se disait qu'on avait eu des beaux articles dans Libération, dans Télérama, qu'on était invité à Taratata, etc. Mais qu'en même temps, les gens avaient parfois l'image d'un groupe qui chantait L'été revient ou des titres un peu plus rock, mais dans lequel il n'y aurait pas forcément des textes forts. Et on voulait revenir avec un album qui témoigne aussi du fait qu'on ne fait pas seulement des chansons joyeuses ou avec des refrains entêtants et pop, mais qu'on savait aussi, j'espère du moins, écrire des vraies chansons avec des textes ciselés, travaillés. Et donc c'était l'occasion, cet album, de mettre plus la langue en avant que la musique et que l'énergie. On voulait revenir avec un album expressément axé sur l'écriture. Voilà. Et le quatuor à cordes, le côté très acoustique, moins de guitare électrique, moins de machines, quelque chose de très organique faisait que ça rendait les paroles plus intelligibles. C'est ce qu'on voulait.
D'accord. Et pourquoi avoir choisi d'enregistrer du coup cet album-là en live et pas du coup en studio comme vous l'aviez fait avant ?
Déjà, c'était un album anniversaire. Mais Harry était sorti en 2017. On n'avait pas eu le temps vraiment de composer un album inédit parce qu'on avait pas mal tourné. Mais on voulait quand même, 10 ans après la sortie en 2009 de notre premier album, donc en 2019, revenir avec un album anniversaire. Donc on a quand même créé 5 titres inédits pour faire en quelque sorte un cadeau aux gens qui nous soutiennent. Pour le reste, on trouvait ça bien d'avoir une proposition différente sur un album anniversaire de ce type-là. Donc on a choisi de l'enregistrer en live, sans aucune triche, sans aucun effet. Pour un album anniversaire, c'était bien de le faire en live, de revisiter complètement certaines chansons. Julia, par exemple, n'est plus du tout la même. Le texte reste le même, la mélodie reste la même. Mais les arrangements, c'est vraiment un virage à 180 degrés. Donc je trouvais ça intéressant. Ce disque me semble vraiment intéressant et est vraiment une partie constitutive de la discographie d'Archimède. C'est pas un ovni, quoi. Il y a vraiment un sens dans notre discographie, Pop Decennium. C'est vrai que c'est déjà dans 10 ans, 2030. J'avais l'impression que c'était de la science-fiction, mais c'est juste dans 10 ans. Qu'est-ce que j'imagine ? J'espère qu'on aura refait, évidemment... des albums et pas seulement un album. J'espère aussi que d'autres projets différents sur lesquels on peut travailler, soit des collaborations, soit des projets plus personnels auront émergé d'ici là. Pourquoi pas même un roman. Je trouve que quand on fait des tournées, j'ai souvent essayé d'écrire dans des formes en prose, disons plus au long cours. Mais c'est pas simple en fait, quand on est artiste, musicien. Là, pendant le confinement, j'avais un peu plus de temps pour écrire des textes autres que des textes de chansons solubles par définition dans des albums de musique. Mais c'est vrai que je suis très attaché aussi à la forme romanesque et même à l'écriture des essayistes. Je suis un grand lecteur, aussi bien de classiques que d'écrivains contemporains, modernes. Je suis familier des éditions de Minuit. Il y a plein d'écrivains que j'admire et que j'admire bien au-delà même de tous les chansonniers. Donc, je ne sais pas si en 2030 j'aurais commis un roman. Et d'ailleurs, je ne vois pas du tout l'intérêt. Il y a de très bons écrivains en France. Mais voilà, peut-être que de ce côté-là, quelque chose sera advenu.
Je tiens à remercier une fois de plus Nicolas d'avoir accepté notre invitation et de s'être prêté au jeu avec ses anecdotes et sa bonne humeur. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à suivre le groupe sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune de leurs actualités. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode en compagnie d'un ou d'une autre artiste. Qui sera le prochain ou la prochaine à partir en voyage ? Surprise ! Bye !
Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu ? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean ?
Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule.